Il est 13h sur France Inter. Et Anaïs Feugat nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour à tous. 216 personnes, en très grande majorité des Afghans, désormais en lieu sûr. Les opérations d'évacuation se poursuivent. Seconde rotation du pont aérien à Pagan. Ces personnes qui s'étaient réfugiées dans la passade de France sont attendues à Paris dans la journée. Merci, on continue, vient de tweeter le président de la République. On vous donne les détails de cette exfiltration dans ce journal. Nous verrons aussi comment un gouvernement de coalition pourrait être mis sur pied en Afghanistan. C'est du moins ce que souhaitent les Occidentaux. Une personne retrouvée morte dans le Var après le passage de l'incendie qui a déjà englouti 5000 hectares de végétation. Forêt et faune dévastées, l'incendie n'a pas progressé mais il n'est pas maîtrisé. Plus au nord, dans le Vaucluse, près de 400 pompiers sont également mobilisés pour un feu à baume de Venise. Nous y serons. Dans ce journal aussi, la croissance en forte hausse en Europe au second trimestre. Le film Bac Nord qui sort aujourd'hui, vu par un habitant des quartiers nord de Marseille. Et puis c'est la plage, celle de Cabourg. La journée des oubliés des vacances, 5000 enfants à la mer grâce au Secours populaire.
France Inter.
Le pont aérien pour évacuer les étrangers de Kaboul désormais bien en place et cette valse des chiffres. Déjà plusieurs milliers de diplomates et de civils auraient quitté la capitale afghane depuis la prise de pouvoir dimanche par les talibans. La nuit dernière, la France a fait partir une deuxième rotation vers Abu Dhabi. Plus de 200 personnes étaient à bord de cette A400M, un appareil militaire. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour Anaïs.
Comment cette exfiltration s'est-elle passée?
Eh bien, il a d'abord fallu amener les personnes susceptibles d'être évacuées sur l'aéroport de Kaboul. Plusieurs centaines qui avaient trouvé refuge dans l'ambassade de France au centre de la capitale ont donc été exfiltrés de l'ambassade et convoyés vers l'aéroport. Une opération complexe, a tweeté tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce sont eux, essentiellement, qui se sont ensuite envolés à bord du A400M. En tout, 216 personnes, 25 ressortissants français, 6 autres ressortissants européens et 184 Afghans de la société civile en besoin de protection, précise le Quai d'Orsay. Ce sont les services de l'ambassade de France à Kaboul, transférés sur l'aéroport depuis 3 jours, qui organisent en effet ces rapatriements. L'A400M s'est envolé direction Abu Dhabi, aux Émirats, base de départ des appareils du pont aérien français.
Voilà pour l'opération française. Comment ça se passe pour les autres?
Eh bien, de manière à peu près similaire, ce matin, 131 Afghans ont par exemple atterri à Francfort après avoir été évacués hier soir sur Tachkent, en Ouzbékistan, où l'armée de l'air allemande a basé les appareils de son propre pont aérien. Un transporteur militaire néerlandais vient de quitter Kaboul avec à son bord une quarantaine de personnes. L'Australie a pareillement réussi à faire partir un premier vol militaire d'évacuation, 26 personnes. Et la République tchèque a elle aussi organisé à ce jour 2 rotations de ses appareils militaires évacuant quelques 130 personnels. Mais les évacuations les plus lourdes, ce sont bien sûr celle organisée par l'US Air Force. Washington évoque 3200 Américains évacués depuis Kaboul ces derniers jours et 2000 Afghans, 1100 personnes pour la seule journée d'hier. Et le général commandant l'opération américaine prévoit d'organiser un départ toutes les heures dans les prochains jours avec une capacité de transport d'au moins 5000 personnes par jour. Américains et occidentaux évaluent à quelque 30 à 40 000 le nombre de personnes à évacuer depuis Kaboul.
Merci Eric. Concernant les opérations françaises depuis l'aéroport de Kaboul où l'ambassade de France a été délocalisée, vous le souligner. David Martinon, l'ambassadeur en Afghanistan, avec ses équipes, c'est lui qui gère ces opérations d'évacuation. Son portrait avec Simon Le Baron.
Lunettes de soleil et gilet pare-balles. À bord de l'hélicoptère venu le chercher à l'ambassade de France, David Martinon a pris le temps de se filmer pour les réseaux sociaux. C'était dimanche, quelques heures seulement après l'entrée des talibans dans la ville. Le lendemain, il postait une photo en mode cellule de crise à l'aéroport de Kaboul, sécurisé par les Américains. Il faut dire que la communication fut le métier de David Martinon, porte-parole de l'Élysée, époque Nicolas Sarkozy, une expérience achevée par un parachutage raté à Neuilly. Il connaît par cœur le fonctionnement de la présidence. Ça aide, juge l'un de ses amis, car il sait que l'enjeu est autant diplomatique que politique pour le chef de l'État. De fait, Emmanuel Macron échange directement avec l'ambassadeur qui veille à se montrer le plus attentif possible au sort des rapatriés.
Je leur souhaite une vie heureuse en France, en famille, même si je sais qu'elle sera difficile, tout au moins au début. Ils ont toute ma reconnaissance, ma considération et mon amitié.
C'était le 14 juillet. Les évacuations avaient déjà commencé. David Martinon ne quittera pas l'Afghanistan, assure l'Elysée, avant que ces opérations soient terminées. D'ici là, il reste protégé en permanence par un commando du RAID, son quotidien depuis maintenant 3 ans.
Le Royaume-Uni, lui, a évacué 300 Britanniques et 2000 Afghans et va en accueillir 20 000 à long terme. Le Parlement britannique est convoqué pour une session extraordinaire. Sur place, parmi les innombrables questions que se pose la population sur la nouvelle ère qui s'ouvre, quelle vie quotidienne, quel droit, quel avenir, celle du changement de régime. Sous le régime précédent, les jeux, la musique, la photographie, la télévision étaient interdits. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler, d'aller à l'école, de sortir sans être accompagnées par un homme. Lors de leur conférence de presse hier, les talibans ont affirmé avoir appris de leur premier passage au pouvoir il y a 20 ans. Il y aura de nombreuses différences dans leur manière de gouverner, ont-ils dit, mais pas en termes d'idéologie ou de croyance. Hier, le Mollah Baradar, appelé à de hautes fonctions, est rentré en Afghanistan. Les talibans assurent vouloir un gouvernement inclusif. Les Occidentaux, dont la France et les États-Unis, Valérie Crova, sont favorables à la formation rapide d'un gouvernement de coalition.
Les Américains disposent d'un moyen de pression pour obliger les talibans à former au plus vite un gouvernement de coalition. Ils ont gelé les avoirs de la Banque centrale afghane. Ce gouvernement inclurait les différentes forces politiques du pays qui disposent d'un système basé sur le multipartisme. Des négociations sont actuellement en cours à Kaboul. Kaneshka Sorkabi, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Comme les États-Unis souhaitent sauver la face absolument et avoir un gouvernement de coalition et non pas l'émirat islamique des talibans déclaré seul par les miliciens talibans, donc ils poussent à ce qu'il y ait ce gouvernement de coalition dans lequel en ce moment même le trio, l'ancien président Karzai, Dr Abdullah, conseiller pour la paix et Gulbuddin Hekmatyar, ainsi que d'autres leaders politiques, sont en train de négocier pour ce gouvernement de coalition.
D'autres négociations se tiennent en parallèle au Pakistan, base arrière des talibans, pour inclure les différentes ethnies de la société afghane, qu'elles soient ouzbèques, hazaras ou tadjiks, aux côtés des talibans, qui sont en majorité pachtounes. Les discussions porteraient sur la mise en place d'un régime décentralisé, voire un régime fédéral, qui permettrait de garantir une stabilité également au niveau régional.
Et précisément, l'Afghanistan, l'un des pays les plus pauvres, est sous perfusion de l'argent étranger. Les flux d'aide ont représenté l'année dernière 43% du PIB. L'Allemagne, l'un des 10 plus gros donateurs de l'Afghanistan, a déjà annoncé suspendre son aide au développement. Dans le dossier très complet sur l'Afghanistan que vous trouverez sur franceinter.fr, des précisions sur ce gouvernement inclusif et l'histoire de ce prof d'allemand afghan terrorisé par l'arrivée des talibans. Il vient de casser sa guitare de peur d'une fouille.
France Inter, le journal de 13h. Anaïs Feuga.
Les pompiers français sur plusieurs fronts en cette fin août avec le plus important feu de forêt de l'été sur la Côte d'Azur. 1200 pompiers qui déploient des efforts inouïs face aux 5000 hectares déjà brûlés. On a appris ce matin la mort d'une personne d'une cinquantaine d'années à Grimaud dans le Var. Une autopsie va être réalisée. On est sans nouvelles non plus d'une jeune femme de 32 ans. Jusqu'à 10 000 personnes ont été évacuées. Dans le Vaucluse, le feu a repris cette nuit dans le secteur de Baume de Venise. 380 pompiers mobilisés dans le massif des dentelles et les habitants consternés à Ndomès.
Main sur la bouche, larmes aux yeux, Hassan regarde les panaches de fumée qui s'élèvent de la colline. Il a garé sa voiture sur le bas-côté de la route à Caron et observe le balai des hélicos bombardiers d'eau qui peinent à freiner l'incendie.
Je suis très ému parce que moi je suis natif de Caron, c'est un paysage qui nous tient à cœur. Et là, on se réveille un bon matin et on voit de la fumée jusque dans les Alpilles et on se demande ce qui nous arrive, quoi. Voilà. Il n'y a pas de mots. Vraiment, c'est très touchant. Ouais.
Même émotion du côté du maire de Baume de Venise, Jérôme Boultin.
Je vous explique pas, quand on passe sur ces décors lunaires, c'est des lieux qu'on pratique en marche à pied, en course à pied, en VTT, ça arrache le cœur. Quand on voit des massifs aussi beaux partir en fumée, c'est vraiment dramatique.
Pour Pierre, qui habite Baume, il est grand temps de réaménager les forêts pour prévenir les catastrophes.
Avec les histoires de propriétaires et tout, les mairies n'ont pas assez le pouvoir pour faire des chemins pour l'accès aux pompiers. Parce que là, s'il n'y a pas le Canadair, eh ben, ils ne peuvent pas y aller, il n'y a pas l'accès.
Les pompiers estiment qu'il leur faudra plusieurs jours pour éteindre complètement cet incendie.
Anne de Metz, France Bleu, Vaucluse, même sidération dans le Var devant le paysage laissé par le feu. La moitié du massif des Maures a été complètement calcinée entre Gonfaron et Cogolin. La flore durement touchée, la faune aussi. Dans cette réserve naturelle vivent en particulier les tortues Hermann. Marie-Claude Serra, la conservatrice, a fait une reconnaissance avec les pompiers et ce qu'elle a vu est consternant.
C'est une catastrophe écologique des paysages lunaires et malheureusement on a découvert des tortues d'Hermann, donc espèce protégée à un niveau international, mortes en essayant d'échapper à l'incendie, en essayant de se réfugier vers des cours d'eau, mais comme ils sont à sec, elles n'ont malheureusement pas pu survivre. Sachant que nous, la réserve, elle avait été créée pour préserver un patrimoine de biodiversité unique en France avec 240 espèces protégées. Donc là, perdre ça, c'est une catastrophe. Le problème actuellement, c'est la récurrence des feux. C'est le fait qu'il y en ait à répétition et là, la nature, elle n'a pas le temps de se réadapter. Par exemple, la tortue d'Hermann, c'était dans le monde, l'un de ses derniers noyaux de population viable avec la Corse. C'est une grande douleur parce qu'on ne sait pas si on va réussir à remonter la pente.
Marie-Claude Serra, la conservatrice de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures, avec David Ossiou de France Bleu Provence. Aux Antilles, 100 tonnes d'oxygène médical acheminées par la marine attendues demain. Une mesure de prévention pour éviter toute éventuelle pénurie d'oxygène face à la vague de malades du Covid. Dans les hôpitaux de Martinique et de Guadeloupe, où les renforts de soignants sont arrivés il y a une semaine. Après 7 jours au CHU de Pointe-à-Pitre, Grégory Briquet, habituellement infirmier à domicile à Cambrai, s'est confié à Anne Ornstein. Il se trouve confronté à des situations inédites qui le bouleversent.
En ce qui me concerne, soigner un jeune de 22 ans qui a fait une myocardite samedi avec un infarctus parce que il a chopé la Covid. Une myocardite, c'est pour toute sa vie. Un cœur fragile, il fera plus de sport, il pourra plus courir. Voilà, donc ça perturbe un peu, même quand on a 48 ans, parce qu'on se dit qu'on a des enfants de 22 à 14 ans et que ça pourrait être son enfant, son propre enfant, et qu'on se dit que c'est bien dommage que nous, qui sommes de l'autre côté de l'océan, on veut pas se faire vacciner, comme les Guadeloupéens qui ne veulent pas se faire vacciner alors qu'on sait que c'est le moyen de se protéger. Et je repense toujours à l'après-guerre, quand il y a eu des poliomyélites en France. On a vacciné tout le monde. Vous et moi avons été vaccinés pour rentrer à l'école. Et on s'est pas posé la question à ce moment-là. Alors pourquoi 60 ans plus tard, on pourrait pas se dire, on va se faire vacciner pour éviter que le virus il se propage. On est 20 ou 60 ans, c'est dommage d'avoir des complications ou d'en mourir parce qu'on n'est pas vacciné, quoi. Ouais, c'est dommage.
Dans le territoire de Belfort, selon nos confrères de France Bleu, un foyer au coronavirus vient d'être détecté dans un EHPAD. 10 résidents et personnel positif. Les visites sont interdites jusqu'à la fin du mois. En Australie, le pire reste à venir, alerte la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, la plus grande ville du pays. Le territoire enregistre aujourd'hui sa plus forte hausse quotidienne de contamination. Seuls 28% de la population de plus de 16 ans y est vaccinée. Il y a un an, jour pour jour, le chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta était victime d'un coup d'État après 9 ans à la tête du Mali. Un an plus tard, le chef des putschistes s'est exprimé à la télévision, lui qui est aujourd'hui président de la transition. Alors, comment les Maliens la vivent-ils? Le reportage de Kaoru Magassa.
À Bamako, les mois qui ont précédé la fin du règne de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta ont été émaillés de nombreuses manifestations. Plus qu'un autre, le quartier de Badalabougou était l'épicentre de la contestation. Les étudiants des facultés environnantes ont largement participé à la mobilisation pour réclamer des changements dans la gouvernance. Un vœu pieux pour Soumaïla Maïga, pour qui les questions du chômage et de l'insécurité sont toujours dans l'impasse, malgré la transition.
Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un grand changement concernant la situation sociopolitique du Mali. On sent toujours que le pays est en stand-by. C'est comme si le pays est en arrêt total. On ne voit pas de progrès de développement ou même des signes de développement dans ce pays.
Assis à quelques mètres, Youssouf n'est pas de cet avis. Pour lui, les mentalités changent peu à peu et les bases de la moralisation de la vie publique sont en train de germer.
À l'époque d'Ibeka, chacun pouvait faire ce qu'il voulait sans être inquiété. Mais avec les militaires au pouvoir, si on regarde leur manière de fonctionner, les choses sont plus carrées, elles sont entre de bonnes mains. Si le pays suit cette voie et s'il plaît à Dieu, le nombre de corrompus va baisser et celui des travailleurs va augmenter.
La durée de la transition malienne a été fixée à 18 mois. Des élections présidentielles et législatives sont annoncées pour février 2022. Kaoru Magassa, depuis Bamako, pour France Inter.
À la frontière avec le Mali, 2 jours de deuil national décrété au Niger. Drapeau en berne sur tout le territoire après le massacre lundi de 37 civils. L'attaque a visé un village tout près de la frontière. Des hommes armés en moto ont froidement tiré sur des habitants qui cultivaient leurs champs. Parmi les 37 morts, la moitié sont des femmes, des enfants ou des adolescents. Depuis 3 ans, cette zone entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso est le théâtre d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Dans le Pacifique, une alerte au tsunami, un séisme de magnitude 6,8 a été enregistré au large de Vanuatu. En Europe, l'économie renoue avec une forte croissance au second trimestre de l'année. Le produit intérieur brut des pays de la zone euro gagne même 2%, Fabien Cazot.
Partout en Europe, le deuxième trimestre a été celui d'un fort redémarrage de l'activité économique, au point d'ailleurs de faire mieux en moyenne que les taux de croissance enregistrés aux États-Unis ou en Chine. Quasiment 5% pour le Portugal, 3% pour l'Italie, 1,5% pour l'Allemagne, qui font mieux que la France. À 0,9%, la croissance hexagonale se situe nettement en dessous de la moyenne de la zone euro. Les grands indicateurs repassent progressivement dans le vert. En France, le taux de chômage se stabilise à 8%. Les créations d'emplois repartent partout en Europe, même si elles n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant-crise. Les marchés financiers semblent en tout cas croire à une reprise économique qui se confirme à la rentrée. L'ensemble des bourses européennes sont en forte hausse depuis le début de l'été. Celle de Paris a même retrouvé son niveau record d'avant l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000.
Les dérives de la police marseillaise à nouveau sur les écrans. Sortie du film Bac Nord, aujourd'hui inspiré de faits réels. L'unité de police avait fini par être dissoute après la révélation d'une série de vols de drogue ou d'argent. Le procès s'était conclu par 7 relaxes et des peines avec sursis. Le film adopte le point de vue des policiers. Il était projeté en avant-première hier dans le centre de Marseille. Emmanuel Leclerc l'a vu avec un comédien qui joue le caïd dans une série sur Netflix avec un point de vue bien différent, regard critique de ce jeune qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille.
Abdraman Niakité est allé au lycée dans l'un des quartiers les plus sensibles toujours actuellement à Marseille, celui de Bassins. En 2012, à l'époque du scandale de la Bac Nord, il est adolescent et connaît certains des policiers de la brigade anticriminalité, sans vouloir en dire plus.
Je m'ai déjà croisé, je me suis déjà fait contrôler par des gens de cette Bac.
Il sait surtout ce qui se disait à l'époque.
Et moi j'ai entendu que son homie plein les poches, mais bon, ça peut être d'autres policiers.
Le parti pris du film Bac Nord de ne s'attacher uniquement qu'au personnage de 3 policiers n'a pas gêné Abdraman Niakité, mais des policiers qui saisissent de la drogue uniquement pour payer leur informateur sans corruption ou enrichissement personnel, c'est un peu l'inverse de ce que montrait la série où il joue le rôle principal d'un caïd.
Le rôle du policier, c'est un ripoux hein, qui prend des enveloppes et qui veut maintenir la paix dans les quartiers. Ce que j'ai pas retrouvé dans Bac Nord, mais bon, c'est 2 visions différentes.
Il y a aussi dans le film Bac Nord le rôle clé d'une informatrice de l'un des policiers de l'histoire, mais qui n'est même pas dans le trafic de drogue à l'intérieur d'un réseau.
Bon, ça peut exister, hein, ça peut exister, mais bon, j'ai pas trouvé ça très 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 crédible.
Pour le reste, le comédien et rappeur marseillais a retrouvé avec énormément de plaisir des figurants et des seconds rôles qui jouaient d'ailleurs dans la même série que lui. Et puis, il y a Gilles Lelouch.
Franchement, très bien. Franchement, la vérité, les acteurs, ils sont très bien joués. Même les Parisiens qui sont à l'intérieur, franchement, j'ai rien à dire. Mais Gilles Lelouch, impeccable, comme d'hab.
Marseille, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Et justement, l'interview de Gilles Lelouch, hein, qui était ce matin sur Inter avec Hélène Roussel, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Ils découvrent pour la plupart la mer pour la première fois. Une découverte émouvante et sans doute inoubliable. On termine avec le sourire de ces 5000 enfants défavorisés d'Île-de-France qui sont à Cabourg, en Normandie, depuis ce matin. C'est l'opération annuelle du Secours populaire, les oubliés des vacances. Le reportage de Mélanie Kuzelevitch de France Bleu Paris.
À la descente du bus, les enfants sont surexcités. Ils sont enfin arrivés après 3 heures de voyage depuis Boulogne.
Ça c'est la plage, c'est la plage, c'est la cité.
Pardon, mesdames et messieurs. Par là-bas, il y a la plage. Et il y a aussi un parc dans la plage. Merci.
Chek a 6 ans et il voit la mer pour la 2e fois.
C'est beau et ça me donne envie d'aller là nager. Et c'est merveilleux et c'est bien. On peut venir avec notre maman ou notre père.
T'aimerais bien venir avec tes parents ?
Oui, mais il veut pas.
La première fois, il avait 2 ans et il débarquait tout droit de Côte d'Ivoire avec ses parents. Patricia Tavares est l'une des organisatrices pour le secours populaire de la Fédé 92.
Cette journée est dédiée aux enfants entre 6 et 12 ans qui n'ont pas accès aux vacances. Donc voilà, c'est une petite journée de vacances pour eux aujourd'hui.
C'est quoi le programme ?
Alors, baignade, activités physiques, activités culturelles et voilà, tout pour les amuser.
L'objectif ? Que les enfants repartent avec de belles images et de beaux souvenirs plein la tête.
Et un petit 20 degrés est couvert aujourd'hui à Cabourg et ailleurs.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Jean-Pierre Rameau.
Bonjour Anaïs.
Ailleurs, c'est un temps estival dans le sud-est.
Oui, uniquement dans le sud-est. Hein. Le soleil va se réfugier d'ailleurs cet après-midi vers l'Occitanie, mais aussi entre la région Rhône-Alpes et la Corse, en passant par la région PACA. Et attention, le Mistral va rester soutenu avec des rafales voisines de 60 km par heure. Puis dans les autres régions, hein, votre après-midi sera bien maussade, sous un ciel souvent nuageux. La couverture nuageuse restera compacte au nord de la Seine et jusque vers la région Grand Est, avec en prime de toutes petites précipitations passagères sous forme de bruine. Et puis côté température, les maximales seront souvent inférieures aux moyennes de saison d'environ 3 degrés. N'attendez pas plus de 19 à Brest, 20 à Lille et Nancy, 21 à La Rochelle et Biarritz, 22 à Dijon, comptez 23 dans la capitale comme à Bordeaux et Cognac, 24 à Lyon, 25 à Toulouse. Et puis avec le soleil, les températures seront plus conformes aux valeurs de saison autour de la Méditerranée, comptez 29 à Perpignan et Nice, 31 à Nîmes et jusqu'à 32 à Marseille.
Merci Jean-Pierre Rameau, Météo France.